Bonjour à tous. Comment réenchanter la politique contre une vision comptable du réel? L'écrivaine Adeline Baldacchino publie et revient chez Fayard sur notre insatiable désir de magie et peut-être aussi de politique, une politique qui fasse des étincelles et qui donne envie d'y croire. Nous serons ensemble à partir de 12h55. Mais d'abord, un grand film sur la famille, sur la condition féminine, le machisme dans le Brésil des années 50. À travers le destin de deux sœurs, réalisé par un homme, le cinéaste algéro-brésilien Karim Aynouz, prix Un certain regard à Cannes cette année, prix du jury professionnel à Pessac le mois dernier, La vie invisible de Ridis Kousmao sortira en salle dans 8 jours, le mercredi 11 décembre. Pour nous en parler, deux regardeuses, Anaïs Fléché et Gabriela Trujillo. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
La vie invisible de Ridis Kousmao. Deux invités pour nous en parler. L'historienne Anaïs Fléché, co-directrice d'une histoire culturelle du Brésil qui vient de paraître, et précédemment de l'ouvrage sur la musique populaire brésilienne qui répondait au doux nom de Si tu vas à Rio. Avec le jury du dernier festival du film d'histoire de Pessac, elle vient de couronner d'un grand prix ce film, La vie invisible de Ridis Kousmao. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Et de à vos côtés, Gabriela Trujillo, spécialiste des avant-gardes latino-américaines, collaboratrice de la Cinémathèque à Paris. Bonjour à vous Gabriela.
Bonjour.
Un mot d'abord du réalisateur Karim Aynouz, que l'on recevait en juin dernier pour son documentaire multiprimé Berlin Tempelhof, diffusé sur Arte. L'histoire de cet ancien aéroport berlinois transformé depuis 2015 en lieu d'accueil pour les réfugiés. Avec ce film-là, La vie invisible de Ridis Kousmao, il repasse du côté de la fiction et du long. Un cinéaste à l'image peut-être du renouveau du cinéma brésilien, très ancré, Gabriela Trujillo, dans des problématiques sociales aujourd'hui.
Absolument. C'est vrai que c'est une année exceptionnelle dans le cinéma brésilien. Au Festival de Cannes, il y avait déjà trois films. Donc le Bacurau qui est sorti il y a quelques semaines. En plus, avec d'autres films qui vont sortir bientôt, donc de contemporains et de compagnons de route de Karim Aynouz. Et une production très très différente, très très diverse, en explorant les genres, en exploitant divers filons, et ici avec une sorte de somptueux mélodrame sur la sororité.
Comment on peut le présenter, Karim Aynouz? C'est un cinéaste qui aime se placer et regarder du côté des marges. Anaïs Fléché, Madame Sata, déjà un film en 2002 inspiré de l'excentrique João Francisco dos Santos, ou encore Le ciel du Sueli sur les femmes du nord-est brésilien. Je ne sais pas si l'une ou les deux d'entre vous avaient vu d'autres films de lui, mais il a une filmographie qui le place en tout cas dans une constante, celle du regarder du côté des invisibles. Anaïs?
Oui, du côté des invisibles, alors pas forcément des minorités, puisque cette vie invisible de Ridis Kousmao, il le dit très bien lui-même, c'est la vie de millions de femmes et pas seulement d'une personne. Donc c'est redonner la parole et l'image à certaines catégories de la population brésilienne qu'on voit pas souvent à l'écran ou qu'on voit de manière stéréotypée. Et je pense que ça, c'est une des constantes du cinéma de Karim Aynouz, que d'explorer ces figures en leur redonnant toute leur humanité.
Je pense aussi que Karim Aynouz est entré avec son premier long métrage avec Madame Satan, dont vous parliez tout à l'heure. C'est le premier qui a montré au XXIe siècle, avec, d'une manière flamboyante, tout ce qui était le Brésil PD, trans, noir, qui était vraiment très très peu visible. Après, c'est un artiste aussi qui joue avec les différents formats, avec les différents supports, et qui est à la fois architecte, artiste visuel, vidéaste. Ce qui enrichit à chaque fois chacune de ses fictions.
Comme il a, lui, il le racontait, le pied entre deux cultures, algérien et brésilien, il revient donc avec ce film sur le destin de deux sœurs. On est à Rio de Janeiro, en 1950, deux sœurs à peine majeures, vivant encore sous le toit de leurs parents, une mère au foyer, très effacée, un père boulanger, un peu frustre, autoritaire. Eurydice, elle rêve de devenir pianiste à Vienne. Guida, sa sœur, de rencontrer le grand amour. Une nuit, Guida justement va s'échapper et suivre un marin grec à l'autre bout du monde, tandis que Ridis va devoir filer droit et épouser le mari que sa famille lui a choisi. C'est là que leur chemin se sépare. Bande annonce.
Escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia.
Taca isso!
Iorgos.
Dá neto, seu Feliciano, que quer tanto.
Eu vou prestar a escola de Viena.
vai. Eu cometi um erro.
O que é isso?
Cadê Ulisses? Eu quero falar com a minha irmã.
Lá na Europa, na Áustria. Entrou na escola com que sempre sonhou. Já não és minha filha.
Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir!
Sais pelas traseiras.
Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho, precisa muito mais de ti.
Fica pensando o dia inteiro, uma mulher que morreu.
Qual é o problema?
Carrie Magnus, Anaïs Fléchet avait en tête de réaliser un mélodrame tropical. Ce sont ces mots. Est-ce que l'objectif est atteint ?
Ah oui, tout à fait. On est vraiment dans le registre du mélodrame et on est aussi dans des couleurs, des textures sublimes qui évoquent cette ville de Rio avec tout son côté tropical. Donc je crois que l'association des deux termes est tout à fait justifiée ici. Carrie Magnus, dans ce film, nous place au début des années 1950. Quelques mots peut-être sur le contexte. Le Brésil à l'époque, dans le souvenir qu'on en a, dans ce qu'on raconte dans les livres d'histoire, on présente toujours cette période comme une période de modernisation accélérée du pays. On est de retour dans un cadre démocratique, c'est le gouvernement Kubitschek à la fin de la décennie, l'industrialisation, les villes qui commencent à pousser, etc. etc. Et en même temps, on voit bien que dans cette décennie qui fait avancer le pays vers une forme de modernité, on a encore des traditions très fortes et une société patriarcale, très traditionnelle, qui existe et qui existe notamment dans ces communautés migrantes. Là, on est dans une communauté très spécifique, qui est la communauté portugaise de Rio. On l'entend bien dans l'extrait que vous avez passé, puisqu'il y a le père qui parle avec un accent tout à fait portugais, alors que les filles lui répondent déjà avec un accent carioca, brésilien. Et donc, c'est ce décalage entre un moment de modernisation et puis une famille qui reste sous l'emprise de ce père très, très décalé, en fait, aussi par rapport à ce qui se passe et par rapport à l'évolution de ces filles. Donc, des formes de résistance à la modernisation qui apparaissent ici dans le cadre de Rio, qui est filmé vraiment magnifiquement. Et Carrie Magnus l'a dit à plusieurs reprises, il s'est beaucoup inspiré de toute la tradition du mélodrame, mais aussi des novellas, mais pas les novellas actuelles, plutôt les premières grandes telenovelas brésiliennes, celles des années 1970. Et donc il y a parfois une forme de distance avec le spectateur, mais qui n'empêche en aucun cas l'émotion qui est présente du début à la fin du film.
Jusqu'à la fin, oui, ça c'est peu de le dire, Gabriela Trujillo, sur ce que le genre mélo représente encore aujourd'hui au Brésil et cette influence revendiquée pour Carrie Magnus des telenovelas qui sont des véritables institutions là-bas.
En effet, alors je pense aussi, je voudrais ajouter un mot sur Hélène Louvard qui fait l'image de ce film, la chef opératrice qui est absolument... qui a construit justement cette image. Elle a travaillé avec Varda, avec Christophe Honoré, avec Virginie Despentes et aussi très récemment avec Alice Rohrwacher dans Heureux comme Lazaro. Donc c'est une femme qui aide beaucoup à ce côté baroque du mélodrame qui est non seulement tropical, mais je pense qu'il faut aussi dire à quel point Carrie Magnus s'inspire de la grande école du mélodrame qui vient de Douglas Sirk et de Fassbinder. Donc il fait ce mélange et je pense que c'est aussi très important de voir à quel point ces mélodrames féminins cet artifice est aussi une tradition qui est non seulement propre aux telenovelas du Brésil et cette génération de cinéastes, comme par exemple Sébastien Lelio au Chili, essaye justement d'élargir ces questions, ne serait-ce que d'un point de vue esthétique.
Voilà, lui parle des couleurs saturées aussi.
Absolument.
De ces images qui pleurent parfois à l'image du rimmel ou du mascara des deux héroïnes.
Film, il avait dit, il faudrait que ce soit un film avec de la sueur, du mascara qui coule... est très violent et très dramatique.
Est-ce qu'il a trouvé le ton juste, justement, pour vous ? Parce que c'est une adaptation d'un roman éponyme de Marta Batalha, d'un premier roman best-seller au Brésil. La légèreté et l'humour en moins, quand même. Et ça, c'est assumé par le cinéaste.
En effet, apparemment, Marta Batalha, elle lui a dit « Tu as été cruelle avec tes personnages ». Donc, c'est un roman qui s'appelle « Les mille talents » de Lidice et Guzmão. Et en fait, ce que fait Carrie Magnus, c'est qu'il prend un des talents et il le déploie. C'est-à-dire que dans le livre, Eurydice a plein de talents. La cuisine, l'écriture, l'humour. Et ici, il prend celui de la musique et il le déploie. Et effectivement, il donne peut-être une profondeur, quelque chose d'un peu plus sombre à ses personnages. Puisque, comme vous le dites, ce n'est pas aussi drôle que dans le film, dans le livre. Pardon, il y a une sorte de légèreté propre à son écriture.
Est-ce que vous voyez un lien avec le mythe d'Orphée et Eurydice, l'une ou l'autre, ou est-ce que Eurydice est simplement un prénom utilisé, peut-être pas commun, mais en tout cas usuel au Brésil ?
Non, il y a bien sûr un lien. Cette héroïne ne s'appelle pas Eurydice pour rien. C'est une musicienne et tout ce qui la tient dans le film, c'est sa passion pour la musique. Et c'est cette passion musicale contre laquelle viennent se heurter les personnages qui l'entourent, que ce soit son père, que ce soit son mari ensuite. Et au fond, il y a une image qui est très forte dans le film. C'est le moment où elle met le feu à son piano, et finalement sa vie, cette vie invisible, c'est cette vie qui devient muette parce que le destin de ces deux femmes et le destin de cette musicienne est brisé par le poids de la tradition. Donc il y a un lien, et il y a aussi peut-être dans cette évocation du Rio des années 1950 un clin d'œil à d'autres films qu'on a bien connus en Europe, notamment Orphée au Nègre ou L'Orphée Noir de Marcel Camus, où on a aussi une Eurydice noire cette fois-ci, mais qui évolue dans le même décor reconstitué du Rio des années 50.
Gabriella ?
Moi, je vois aussi le lien à l'invisibilité. Donc, c'est-à-dire que Eurydice, dans le mythe, c'est une femme, dès qu'on la regarde, elle disparaît, elle se perd dès que Orphée se retourne. Et à un moment dans le film, elle dit « quand je joue, je disparais ». Et je trouve cette chose absolument magnifique et ce moment déchirant, non seulement parce que effectivement elle doit se taire, elle doit taire son talent pour la musique, mais elle doit cesser d'exister aussi, et qu'aucun homme justement ne la voit telle qu'elle est.
C'est ça la vie invisible d'Eurydice, hein. C'est à la fois le monde qu'elle recrée dans sa tête, habité par cette sœur bannie de la famille et qu'elle espère revoir, qu'elle fantasme loin, heureuse et accomplie. C'est aussi sa passion presque coupable pour le piano, à une époque où il ne fallait avoir de passion ou d'intensité que, pensait-on, pour son mari ou ses enfants, et pas d'activité indépendante de ce foyer. Et c'est enfin le projet d'un réalisateur qui n'a cessé depuis ses premiers films, on le disait, de vouloir rendre visibles toutes ces vies invisibles, celles des grands-mères et des mères, des femmes de l'époque. C'est peut-être un peu ça aussi, une métaphore du cinéma, Gabriella Trujillo, hein, s'inventer des mondes pour se sentir exister.
Alors, je pense que effectivement, il y a cette invention, et Karim Aynouz, depuis ses premiers films, traite dans la fiction et dans le documentaire aussi toute la question de l'abandon, de la séparation, du manque, ici vu sous la forme de la mutilation de cette femme par rapport à ses talents. Et puis aussi, quelque chose de très beau dans ces personnages, c'est qu'ils essayent tous de comprendre pourquoi cette séparation, pourquoi ce manque. Et donc, ils sont forcés, ils sont contraints d'inventer, comme ici, chacune des sœurs, chacune de leur côté, alors qu'elles sont dans la même ville, s'imaginent l'autre heureuse au loin, avec toute la vie qu'elle fantasme peut-être pour elle-même.
Alors, on a parlé un peu d'Eurydice, et puis il faut regarder la figure de l'autre sœur, Guida, qui incarne, elle, une forme de résistance ou d'insoumission. Elle est déclassée, hein, chassée de la maison par son père, qui ne veut pas d'un petit-fils bâtard et d'une fille ingrate, parce qu'elle revient de Grèce, où elle s'est échappée avec son marin et qu'il l'a abandonnée. Elle revient enceinte. Elle va se retrouver au cœur d'un monde de femmes pauvres, qui se prostituent ou qui vivent de petits boulots et de débrouilles. Je vous propose d'écouter les mots d'une romancière afro-brésilienne, Conceição Evaristo. On la surnomme la Toni Morrison brésilienne. Elle a recueilli des paroles de femmes fortes. Elle les a réunies dans un livre qui s'appelait « Insoumise, un portrait de la sororité noire dans le Brésil des 60 dernières années ».
Je suis une femme insoumise. Si je ne l'étais pas, et insoumise contre la vie, contre la condition de la vie, je ne serais pas là. Mais cette insoumission, elle est également chargée d'espoir, de résistance. Et avant tout, d'une certitude que les espaces des droits à la vie
sont des
espaces de nous toutes.
Voilà, Elle parle presque indirectement de Guida, hein, la romancière Concessant Evaristo, comme elle pourrait parler aussi du personnage de Philo, qui est très important dans le film, qui garde les enfants de ses filles mères pendant qu'elles vont travailler, qui va accueillir Guida et devenir pour elle une sorte de seconde mère, une seconde famille, avec une solidarité féminine qui va s'exercer là. Gabriella.
Il y a en effet toute cette question de la famille réinventée, de ces communautés qui se créent et qui sont en quelque sorte inavouables puisqu'elles traînent avec des prostituées, des femmes qui sont en marge. Je voudrais peut-être juste, j'avais pris une citation du livre où elle compare les deux sœurs et c'est très court. Donc Eurydice était imbue d'elle-même parce qu'elle aimait vivre dans son petit monde à elle et Guida l'était parce qu'elle voulait être la plus belle dans le petit monde qui était le leur. Donc elle est, comment on explore ces deux figures face à face qui sont complémentaires et qui effectivement, même après, par le souvenir et par l'amour, elles restent toujours liées.
Inséparable. Anaïs Fléché, c'est un grand film sur la condition des femmes dans les années 50, mais qui trouve aussi un écho important aujourd'hui. Hein.
Oui, bien sûr. Alors, la réception du film de Karima Inouz résonne avec l'actualité sociale et politique du Brésil, puisque... On le sait, depuis l'élection de Jair Bolsonaro et depuis sa prise de fonction en janvier dernier, il y a une forme de retour à l'ordre moral qui est promu par les autorités brésiliennes et incarné notamment par la ministre de la Femme, de la Famille et des Droits Humains, une certaine Damares Alves, qui est pasteur évangélique, ultra-conservatrice, et qui s'était illustrée au moment de sa prise de fonction en disant que les garçons devaient être habillés en bleu et les filles en rose. Voilà, on a au Brésil aujourd'hui une montée en puissance ou un retour de forme très traditionnelle et conservatrice, voire réactionnaire de pensée. Et une question qui est centrale dans le film et qui résonne beaucoup avec l'actualité aujourd'hui, c'est celle, bien sûr, il y a deux questions, celle des violences faites aux femmes, mais aussi celle de l'avortement, qui est considéré comme un crime aujourd'hui au Brésil, et qui est une question qui touche beaucoup de femmes et contre laquelle on n'a pas vraiment de solution. Et je recite à nouveau cette ministre Damares Alves, elle est pour l'interdiction absolue de l'avortement, même en cas de viol, qui est une des exceptions accordées par la loi brésilienne aujourd'hui.
Ouais, il y a ce débat en cours, effectivement, au Brésil sur l'avortement, avec la montée des églises aussi évangéliques qui pèsent sur ce débat. Et puis, il y a toute la question de la domination masculine, toujours très ancrée quand même dans la société brésilienne. Les hommes, ils n'ont clairement pas le beau rôle hein, dans ce film. Ils semblent quand même enfermés dans un système patriarcal qui, d'un côté, les valorise et de l'autre aussi, les dépasse. Je vous propose d'écouter les mots du réalisateur, Karim Aynous, qu'on n'a pas encore entendu, sur la question de la sexualité, qui est aussi très présente dans ce film et qui agit comme un révélateur.
Pour moi, c'était très important de faire une espèce de généalogie de l'acte sexuel dans ces films. Et ça, c'est pour ça, je vais dire que c'est très important de comprendre qu'est-ce que c'était pour une femme, une jeune femme dans les années 50 au Brésil, la découverte du sexe, de la sexualité, des rapports sexuels. J'étais exposé à beaucoup de films qui parlent de l'acte sexuel et de la première expérience sexuelle par rapport au masculin. Et quand j'ai commencé à penser à cette histoire et au personnage, moi je pensais que c'était très important de faire une espèce de contre-champ de ça. Et moi j'ai interviewé à peu près une douzaine de femmes qui avaient entre 80 et 90 ans pour les demander comment c'était la première fois qu'elles ont une relation sexuelle avec un homme. En général, la première fois c'était dans le contexte du mariage. Et les réponses que j'ai eues, la plupart, évidemment qu'il y avait des réponses un peu drôle, avec du sens d'humour, mais la plupart des réponses étaient des réponses assez violentes. C'était des femmes qui me disaient qu'elles n'avaient jamais vu un corps d'homme nu, que c'était la première fois qu'elles voyaient un membre sexuel avec lequel elles devraient passer toute leur vie.
Voilà, une sexualité représentée de manière assez crue, à l'écran, assez franche, et qui montre aussi quand même... à quel point les femmes dans ces premiers rapports étaient presque aussi des souffres-douleurs. Hein. Il n'y avait rien qui était connoté ou raccroché à l'idée de plaisir. Gabriella, Anaïs Fléché.
Oui, la scène de la nuit de noces de Rédis Guzmán est particulièrement forte avec ce premier rapport sexuel qui s'apparente à une forme de viol conjugal. Et on voit que cette question... Alors, Dans le film, elle est posée à travers la question de la grossesse qui est non désirée, mais aussi de ses rapports sexuels contraints, puisque en fait, Eurydice est soumise aux appétits de son mari. Elle essaye d'y résister. Et la seule chose qui la fait tenir, c'est sa passion pour la musique, qui fait écran, et ce qui explique d'ailleurs que son mari va chercher à la briser. Mais cette scène de la nuit de noces est particulièrement forte. Et c'est un des moments peut-être les plus importants du film. Mais ce qu'il y a d'intéressant d'ailleurs dans tout le film, c'est qu'on a beaucoup de moments où il y a des rapports sexuels qui sont représentés, mais il n'y a aucun de ces rapports sexuels qui n'est abouti. Et donc la dimension de plaisir, en tout cas de plaisir féminin, est absolument absente du film.
Oui, parce que le rapport sexuel est lié aussi avec l'enfantement, enfin, en tout cas avec la grossesse qui pourrait en advenir et auquel ces femmes aimeraient échapper au départ pour exercer les passions qu'elles ont envie de faire.
Alors moi c'est drôle, mais moi je suis pas tout à fait d'accord parce que j'ai quand même l'impression qu'il s'agit à la fois chez les deux sœurs, il n'y a pas forcément du rejet. Il y a effectivement la peur de la grossesse, mais je pense que ce sont des personnages très forts et désirants. En tout cas, c'est ce que j'ai cru voir dans certains justement de ces rapports. Et il faut savoir aussi dans le livre, il y a un élément qui me semble intéressant, qui est comme un sous-texte dans le film, c'est que lors de la nuit de noces, Eurydice ne saigne pas et son mari lui en veut toute sa vie parce qu'il pense qu'elle n'est pas vierge.
Alors attention, il y a débat. Anaïs Richer, je rappelle vous êtes, vous, juste historienne, co-directrice d'une histoire culturelle du Brésil qui vient de paraître récemment, et Gabriela Trujillo, spécialiste des avant-gardes latino-américaines, collaboratrice de la Cinémathèque.
Non, je voulais juste préciser que, bien sûr, ces femmes sont pleines de désirs et que c'est une des forces motrices du film. Et il y a une très belle humanité dans ces personnages. Mais il n'empêche que ces désirs sont contrariés. Et c'est ce qui donne aussi toute sa puissance au mélodrame.
Et les hommes dans ce film, est-ce qu'ils sont représentés avec justesse, ou vous trouvez, Gabriela Trujillo, que le réalisateur Karim Aynouz est un peu dur avec eux? Ils n'ont pas le beau rôle. Hein.
Alors, c'est drôle parce qu'ils sont aussi le produit d'une histoire. Ils sont vraiment contraints aussi par ce qu'ils doivent représenter et ce qu'ils doivent assurer, ce qu'ils doivent apporter aussi comme moyen au foyer. Et le film est intéressant aussi en perspective de Praia do Futuro, qui était le film précédent de fiction de Karim Aynouz, où c'était l'histoire de deux frères, enfin c'était trois garçons, dont deux frères. Et ici, on a deux sœurs. Donc je pense que c'est beau, cette question de la filiation ou de la sororité, la manière dont il les explore.
Anaïs Fléchet.
Alors, le personnage du mari d'Eurydice Gusmão, qui est interprété par un très très talentueux acteur brésilien,
Grégorio
du Vivier, Karim Aynouz dit de lui qu'il a voulu le creuser pour ne pas donner une image simplement négative des hommes. Bon, en tant que spectatrice, j'avoue que j'ai pas été profondément touchée par ce personnage. Il me semble que ces personnages masculins sont peut-être un peu plus caricaturaux, moins travaillés en tout cas que les deux personnages des sœurs, mais aussi de ce personnage de Philo, qui est donc la figure de la famille choisie contre la famille héritée.
Voilà, la mère de substitution, la sœur de substitution, voilà. Et le père de substitution.
Et qui est un personnage très fort. Donc, dans l'ensemble, c'est un film qui penche quand même plutôt du côté des femmes.
L'humoriste star de HBO au Brésil, vous le citiez, Grégory Duvivier, qui joue donc dans le film Antenor, le mari d'Eurydice, et qui déplore un détricotage des politiques publiques d'aide au cinéma depuis l'arrivée du nouveau président Jair Bolsonaro.
En ce moment, un des ennemis de Bolsonaro, c'est la culture. Donc peut-être c'est la dernière année que le Brésil vient à Cannes. Tous les films qui dépendent de l'argent public, en ce moment-là, sont paralysés. C'est très dur parce qu'on commençait à avoir une industrie. Ça prend du temps d'avoir une industrie parce qu'on doit avoir des professionnels. Et pour avoir des professionnels, il faut qu'ils vivent du cinéma, qu'ils se forment. Il faut qu'il y ait une perspective de marché. Il y avait un marché cinéma en Brésil. Et il y a tout ça s'effondre. Non seulement l'argent public, mais aussi les mécanismes de régulation. On avait ce qu'on appelle pourcentage d'écran au Brésil. C'est-à-dire, le même film ne pouvait pas occuper plus de 40% des cinémas. Ça a été coupé. Et en ce moment, il y a les Avengers au Brésil qui ont 80%. On n'a plus de salles déjà de cinéma au Brésil, de salles de rue, parce qu'on n'a pas de protection. Donc elles sont toutes fermées, elles sont devenues églises évangéliques, Igreja Universal on appelle. Donc c'est très dur aujourd'hui en ce moment de faire un film d'art, de faire sortir un film d'art au Brésil.
Voilà, Gregorio du Vivier qui est assez loin hein, dans la vie du rôle qu'il tient à l'écran dans ce film La vie invisible de Ridis Gusmão. Anaïs Fléché, sur l'état du cinéma aujourd'hui au Brésil.
Oui, il y a un vrai paradoxe parce que d'un côté le cinéma brésilien, on l'a dit, est foisonnant et cette année 2019 a été vraiment un grand cru pour les réalisateurs brésiliens et pour nous en tant que spectateurs et spectatrices. Et en même temps, c'est un cinéma qui est en danger parce que ses modes de financement et notamment l'ANCINÉ, qui est l'agence brésilienne de financement du cinéma, a été désignée comme une forme d'ennemi à abattre par le gouvernement Bolsonaro. Et au-delà des entraves au fonctionnement, des coupes budgétaires qui sont prévues, il y a aussi de nouvelles formes de censure qui sont mises en place. Alors on n'est pas comme au temps de la dictature militaire avec un service de censure bien institutionnalisé, etc. C'est une censure un peu plus larvée, un peu plus voilée. Mais le président a dit qu'il était temps que l'ANCINÉ arrête de financer des films porno, qu'il ne fallait pas donner d'argent public pour tous les films qui traitaient justement de ces thématiques, de la sexualité, etc., etc. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une reprise en main de l'ANCINÉ, mais aussi de toutes les institutions culturelles où ont été nommés très récemment des personnalités ultra-conservatrices et des pasteurs évangéliques. Donc quelque chose qui laisse planer une réelle menace sur le cinéma indépendant notamment.
Moi, je voudrais quand même renouveler toute ma foi en ce cinéma vivace qu'est le cinéma brésilien, parce que c'est aussi pas seulement les réalisateurs, mais aussi les réalisatrices, puisque les semaines à venir, encore en 2019, on aura le film de Sandra Cogut, Trois étés, qui va sortir. Cannes a vu aussi le film d'Alice Furtado, Six Six Six, et puis le film de Gabriel et Maurilio Martins, Au cœur du monde, un film de Gabriel Mascaro qui s'appelle Divino Amor, qui traite justement de questions religieuses. Et puis c'est quand même le pays à la fois de Carmen Santos, qui était réalisatrice, productrice, comédienne, d'Elena Ignez, et puis bien sûr de Ligia Papp et Ligia Clark. Donc je pense qu'il faut aussi croire encore, et j'espère que ces artistes vont pouvoir survivre et continuer à faire des films.
Voilà, c'est un pourvu que ça dure. Merci beaucoup à vous, Gabriela Trujillo. Merci mille fois à vous, Anaïs Fléché. Je rappelle donc le titre de l'ouvrage collectif que vous avez co-dirigé, Une histoire culturelle du Brésil qui vient de paraître. Vous indiquez aussi que France Culture et le Cinéma Majestic Bastille à Paris présentent régulièrement leur séance France Culture. Rendez-vous justement ce soir à 20h pour la projection de ce film en avant-première, La vie invisible de Ridis Gusmão de Karim Aynouz, avec suivi d'un débat animé par Antoine Guillot avec la productrice Dominique Velinski. C'est donc ce soir. Pour plus d'infos et des réservations, ça se fait sur le site de franceculture.fr ou lesécransdeparis.fr.